Il y avait un héros, nommé Pélée, qui avait été chassé par son père Éaque, parce qu'il avait tué son frère, Phocos, avec l'aide de son autre frère, Télamon. Télamon et Pélée, qui avaient grandi ensemble et n'avaient jamais quitté l'île d'Égine, se sont retrouvés à partir chacun de leur côté. Pélée s'est réfugié dans la ville de Phthie, où il a été recueilli par le roi Eurytion. Pélée avait commis un crime, le crime d'avoir tué son propre frère. Mais pourtant, quand il est arrivé à Phthie, il a été bien accueilli. Il faut dire que Pélée était tellement beau. Il dégageait une telle assurance, une telle puissance. Il avait un tel avenir devant lui que l'on ne pouvait que l'aimer. Et c'est ce qui est arrivé à Eurytion, qui a adoré le jeune homme et qui aussitôt l'a adopté. Il a fait tous les rituels pour le purifier de son crime, pour qu'il soit dégagé et ne risque pas une vengeance divine. Puis, il lui a proposé d'épouser sa fille Antigone et il lui a offert un tiers de son royaume. Et Pélée s'est installé, heureux, à Phthie. Ensuite, il a participé à toutes les grandes aventures de l'époque. Quand Jason a lancé un appel à toute la Grèce pour réunir les plus grands héros pour aller chercher la toison d'or au bout du monde, il y est allé. Il ne s'est pas distingué particulièrement pendant cette grande quête, mais il en a fait partie. Et ensuite, quand un terrible sanglier a ravagé le pays de Calydon, que des héros sont venus de toute la Grèce pour s'occuper de lui, Pélée y était. Et il n'était pas seul, il était avec son beau-père Eurytion. La chasse a duré plusieurs jours, plusieurs nuits. Et à un moment, alors que le jour tombait, derrière un buisson, Pélée a vu un mouvement. Il a levé sa lance et de toute sa force il l'a projetée sur ce qu'il croyait être le sanglier et qui était en fait son beau-père qui se cachait pour essayer de saisir le sanglier à l'affût. Pélée est allé fouiller dans le buisson et il a trouvé son beau-père mort. Il s'est arraché les cheveux. Il est rentré en hurlant chez lui, en abandonnant aussitôt la chasse et tous ses hommes. Il est rentré à Phthie pour annoncer à Antigone, sa femme, ce qu'il avait fait de son père. Il a pleuré, il a crié, et il lui a dit qu'il partait, qu'il allait se purifier et qu'il reviendrait. Il est parti. Il est allé trouver l'un des compagnons avec qui il s'était lié d'amitié pendant la quête de la toison d'or, Acaste, le cousin de Jason. Celui qui était au trône à Iolcos. Pélée est allé le trouver et Acaste l'a purifié. Pour la seconde fois, Pélée a été purifié de son crime. Acaste l'a reçu comme un invité d'honneur dans son palais. Il l'a nourri, il l'a fêté, on a fait de grandes fêtes. Et Pélée à nouveau rayonnait, il était réjouissant à voir. Il paraissait prêt pour de nouvelles grandes aventures. Alors, la femme d'Acaste, qui s'appelait Astydamie, est tombée amoureuse de lui. Au cœur de la nuit, elle s'est levée, elle a traversé le palais, elle est allée droit jusqu'à la chambre. Elle s'est glissée dans son lit. Et, avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, elle a profité de lui sauvagement toute la nuit et encore. Au petit matin, quand la lumière est entrée dans la chambre et qu'il a réalisé qui était la femme qui avait partagé son lit cette nuit-là, il a poussé un cri. Il l'a chassée de la chambre. Mais comment as-tu pu faire ça, toi, la femme de mon ami, de celui qui m'accueille? Comment as-tu pu faire cela? Elle l'a regardé, elle a souri et elle a dit: Je l'ai fait une fois et je le referai encore la nuit prochaine. Sois là, sois présent, ouvre-moi ta porte ou tu le regretteras. La nuit suivante, Pélé s'est barricadé. Sans en parler à son ami, il s'est barricadé. Il a fermé la porte et il n'a pas laissé entrer Astydami. Et il l'a regretté. Dès le lendemain, Astydami a écrit une longue lettre à Antigone, où elle lui a expliqué le comportement terrible de Pélée. Depuis qu'il était venu à Iolcos, il sautait sur toutes les femmes qu'il pouvait trouver. Il en avait engrossé plusieurs, et il continuait, et même elle, il la harcelait jour après jour. Antigone a reçu cette lettre. Elle n'a pas su quoi en faire. Elle, qui aimait tellement son Pélée, elle, qui croyait tellement en lui, elle s'est suicidée. Quand Pélée a appris ce suicide, il a plongé dans une profonde affliction. Et son ami Acaste a essayé de le consoler. Alors Astydami a déployé la deuxième partie de sa vengeance. Elle a trouvé Acaste et elle lui a raconté comment Pélée avait essayé d'abuser d'elle. Et elle y a mis tant de détails qu'il l'a cru, sans même poser la question à son ami. Acaste était décidé à se débarrasser de Pélée, mais il ne pouvait pas le tuer lui-même. Il l'avait purifié, ils étaient liés par un lien religieux. Alors il l'a emmené à une grande chasse, en disant que ça allait lui faire penser à autre chose, que ça allait le soulager. Il l'a emmené faire une grande chasse, et ils ont chassé, dans la montagne. Une chasse qui a duré longtemps. Et ils ont chassé dans la montagne. Et on dit que Pélée tuait tellement de bêtes qu'il n'arrivait pas à les ramasser. Il était tellement fort, il était tellement puissant. Et il faisait des tas avec les bêtes qu'il tuait. Mais il leur a à chacune ôté la langue qu'il a mis dans son mouchoir. Et quand les gens d'Acaste se sont moqués de lui en disant qu'il n'avait rien attrapé, quand les gens d'Acaste se sont accaparés les prises de Pélée en disant que personne ne le saurait, Pélée a montré toutes les langues. Acaste, peut-être, quand il a vu ça, aurait dû avoir un doute, mais ça ne lui a pas suffi. Cette nuit-là, ils sont allés un peu plus loin encore, au-dessus de la forêt. Là, il y avait de nombreuses grottes, et Pélée ne le savait pas, mais c'était l'endroit où vivaient les centaures. Un peuple brutal et violent. Et pendant que Pélée dormait, Acaste lui a pris son épée et il s'est enfui avec tous ses hommes. Au petit matin, les centaures sont sortis de leur grotte et ils ont trouvé là celui qui dormait, ce Pélée. Alors ils se sont rassemblés pour lui foncer dessus. Pélée s'est relevé, il a voulu attraper son épée qu'il n'a pas trouvée. Il a regardé la horde en face de lui, sanguinaire, bien décidé à mettre fin à sa vie et à le dévorer. Il s'est préparé à se battre. Jusqu'à la fin, il était un héros. Mais alors un centaure s'est interposé et il a dit « Ne touchez pas à lui. Il est de ma famille. C'est mon petit-fils. » Tous les autres centaures ont regardé, sans comprendre ce qui se passait. Ils ont regardé Pélée, ils ont regardé le centaure qui s'était interposé, et puis en grognant et en grimaçant, ils sont rentrés dans leur grotte. Et le centaure, qui s'appelait Chiron, a recueilli Pélée. Il lui a raconté comment il était le père de sa mère, Endéis, même s'il n'était jamais venu jusqu'à Égine pour les retrouver. Il a expliqué qu'il avait appris tous les malheurs de Pélée, et qu'il pouvait le recueillir aussi longtemps qu'il le voulait. Et au bout de quelques jours, Chiron est venu le trouver et lui a dit « J'ai quelque chose qui pourrait te faire oublier tous tes malheurs. Peut-être qu'il faudrait que tu trouves une nouvelle femme. Et il y a une femme merveilleuse, une femme magnifique, une femme que tous voudraient épouser, que même Zeus voudrait épouser, mais qu'il ne va pas épouser. Elle est pour toi. Il faut que tu ailles la trouver. » Sur le rivage, non loin d'ici. Il faut que tu lui montres ta puissance. Elle va chercher à s'échapper. Tu ne dois jamais la lâcher, quoi qu'il se passe. Va, et un mariage heureux te sera assuré. » Et Pélée y est allé, et sur le rivage il a trouvé, comme son père avant lui, une fille du vieux roi de la mer Néré, une Néréide, c'était Thétis. Il lui a sauté dessus, il l'a attrapée, et quand elle a essayé de s'échapper, il ne l'a pas laissée fuir. Oui, comme son père avant lui l'a serré. Mais Thétis ne s'est pas transformée en phoque. Elle s'est transformée en flamme. Et il a serré, il a senti tout son corps brûler, mais il a serré. Elle s'est transformée en eau. Il a senti l'eau couler contre son corps, mais il a continué de serrer sans lâcher, et elle n'a pas réussi à s'échapper. Elle s'est transformée en vent. Il a continué de serrer encore, et en vent, elle n'a pas réussi à partir. Elle s'est encore transformée en tigre, en lion, en serpent, et même en sèche. Mais elle n'a pas réussi à lui échapper. Alors, elle a été obligée de l'épouser. Et on a organisé un grand mariage. Un grand mariage où tous les dieux sont venus. Un grand mariage qu'il a uni à Thétis. Un grand mariage dans lequel la déesse Eris est venue et a fait rouler une pomme d'or sur laquelle était gravée à la plus belle. Un mariage qui lui a permis d'avoir un enfant avec Thétis, un enfant encore bien plus fort que son père, un enfant qui sera le plus valeureux de tous les Grecs, le plus fort, le plus puissant, un enfant nommé Achille.